Bonjour, chers auditorices. Je me fais la bouche ce matin en articulant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale du mercredi 11.
Voilà.
Juin, c'est déjà juillet, c'est pour ça, c'est déjà les vacances. C'est ton anniversaire. Oh, bon anniversaire. Bon anniversaire, William. Ouais, c'est William qui nous accompagne de l'autre côté de la vitre aujourd'hui. Et il y a Lina pas loin, il y a Yann pas loin, il y a Léonie qui est revenue dans nos murs. Voilà, on est content de la réaccueillir pendant un mois. Et donc, c'est l'anniversaire à William. Donc, bon anniversaire, Will. On va parler d'un sujet grave aujourd'hui, on va parler d'habitat, mais pas que, on va parler... Voilà, merci beaucoup, j'ai récupéré le son dans le casque, merci beaucoup William. On va parler d'un sujet grave aujourd'hui, on va parler de droit au logement, d'inclusion sociale, on va parler d'une association qui est une association qu'on a déjà souvent reçue ici, et qui est vraiment une association sœur, c'est Habitat et Humanisme. Pour recevoir nos invités, je suis en compagnie de... Je vais y arriver.
Mathilde.
Et Dylan.
Bonjour, bonjour.
Merci de faire cette matinale avec moi. Ça me fait plaisir. On renouvelle l'expérience de la semaine dernière. Voilà. Et nos invités, je vais vous les présenter, chers auditeurices. Armel Fleureau, donc, qui fait partie de Habitat Humanisme depuis combien de temps, Armel ?
Une dizaine d'années.
On va mettre juste le micro bien devant nous. Et avec Grande Collignon.
Tout à fait. Bonjour, Grant. Bonjour.
Président.
Eh voilà. Oui. C'est vrai que c'est souvent Monsieur Koubi qui était venu nous parler d'Habitat Humanisme au micro de Rija à l'époque. Mm-hmm. Voilà, qui était notre interlocuteur. Pour commencer de parler d'Habitat Humanisme, c'est une association qui est quand même connue. Mais peut-être, Grant, nous faire un peu l'historique de cette association.
Ah ben, elle est très simple. C'est un monsieur qui a commencé. Il s'appelle Bernard Devers. Aujourd'hui, il est révérend père. Mais il n'a pas commencé, il est arrivé à la prêtrise un peu tard, un peu sur le tard. C'était un agent immobilier sur la région lyonnaise qui s'est retrouvé un jour face à une personne en difficulté, une dame en difficulté. Et l'idée de créer un logement pour cette dame ou un centre où elle pouvait être accueillie a très vite germé dans son esprit, puis il a commencé à travailler là-dessus, et puis il voulait que ce soit quelque chose d'inclusif, c'est-à-dire pas un ghetto quelque part à l'extérieur ou isolé, il voulait tout de suite que ce soit dans un milieu, on va dire, social normal, de manière à ce qu'il pouvait retrouver et retisser le social. C'était il y a 40 ans exactement, en fait, les 40 ans de la fédération aujourd'hui, dont nous dépendons ici à Montpellier. Et le hasard des calendriers fait que aujourd'hui, en fait, nos 30 ans. En 95, des prémices qui avaient été établies sur Béziers. Béziers nous a précédés de quelques semaines, on va dire quelques mois. Et Montpellier a été créé dans la foulée. Et Montpellier, évidemment, ça s'est développé d'une façon exponentielle.
Comme Montpellier s'est aussi développé d'une façon exponentielle depuis...
L'époque faisait que tout était possible, quoi, je veux dire. Donc on avait la possibilité d'investir humainement, j'entends, hein, parce que on a investi, au départ ce n'était que des bénévoles qui ont commencé, et puis après on a commencé avec des logements qui appartenaient à la foncière. La foncière, c'est le côté immobilier de la fédération qui achetait des immeubles ou des appartements ou des logements sur Montpellier et puis qui nous mettait à disposition de l'association pour trouver des résidents.
Ça a commencé en région parisienne ?
Ça a commencé à Lyon, autour de Lyon. Oui. À Caluire et Cuire, exactement. D'accord. Donc c'est le siège encore toujours actuel de l'association, de la fédération.
Et comment ça fonctionne alors? Vous achetez pas les logements,
là-dessus. Donc on a une partie qui appartient à la fédération via la foncière. La foncière, donc c'est une entité qui a été créée pour gérer le parc de logements. Ça va d'immeubles, en passant par des appartements, en passant par des petites maisons, ou des petits lotissements. Ensuite, on développe là-dessus des, comment dirais-je, on se rapproche de propriétaires qu'on appelle solidaires en leur faisant, en leur demandant la possibilité de louer leur logement à un prix un petit peu inférieur du marché, mais avec les garanties que nous pouvons apporter sur la pérennité de leur investissement. Voilà.
C'est que du logement existant ou c'est du neuf? Ça peut être sur du neuf, par exemple.
Ça peut être du neuf. On est actuellement, enfin l'année dernière, on a inauguré du 100% neuf sur Montpellier, et c'est ce qu'on appelle une pension de famille. Anciennement, ça s'appelait Maison Relais, mais c'est une pension de famille où on loge les plus démunis. C'est vraiment les gens de... Voilà.
C'est ce qu'on a au Carrousel. Je montre le crayon
exactement,
pour moi, parce
oui.
que c'est ce qu'on a ici.
Oui, parce que là, je ne connaissais pas la situation de la radio, du studio. Mais on est avec des amis, on travaille avec Gam depuis des années maintenant. On s'entend très, très, très bien. Et heureusement.
Parce il faut
on fait la même chose. Ils sont plus forts que nous, quand même.
C'est un gros truc, quand même, Gam. Hein. C'est
oui,
voilà, on parlait avec Armel du nombre d'employés, c'est 23 pour Habitat Humanisme. Je ne sais pas si ce n'est pas le deuxième
organisme.
Employeur de la ville.
De la ville. Oui,
après le département.
Après le CHU.
Le CHU.
C'est le CHU, je crois, le premier, c'est le CHU.
Ah, peut-être le CHU,
oui. Oui, c'est un gros truc. Donc, on connaît aujourd'hui, évidemment, le nombre de... Le parc, quand vous parlez de parc, donc on a bien compris, petit logement, studio, etc., mais maison même, le nombre de logements disponibles.
On le connaît mal, finalement. On a ce que nous avons en portefeuille, en propre. Donc on essaie de le faire croître aussi. Hein, quand même, l'année dernière, on a fait par exemple des achats de logements qui correspondaient à une situation, qui correspondait à un investissement qu'on pouvait faire et un aménagement qu'on peut faire. C'est rare, enfin ça commence à devenir rare, mais à côté de ça, on se développe beaucoup plus maintenant dans la captation de logements. Alors le problème, c'est que ces logements doivent être aujourd'hui...
Rénovés aussi.
Oui, ils doivent correspondre aux normes
écologiques,
d'énergie, etc. Enfin, donc voilà. Donc tout ça sont des petits soucis qui se sont greffés au fur et à mesure des années. Mais on garde espoir, évidemment. On est toujours... Aujourd'hui, on est toujours aux alentours, on va dire, de 400 logements, je veux dire, alentours. Hein, oui. Donc un petit peu moins, un petit peu plus.
Sur Montpellier.
Sur la région, sur le département.
C'est
donc
beaucoup,
on
quand même.
Sur le département.
Beaucoup,
C'est pas mal, oui, c'est pas mal. En fait, on loge...
700
personnes. Oui, entre 700... Enfin, ça dépend, parce qu'il y a des... On ne connaît pas tout, non. La situation familiale, on la connaît, mais il faudrait l'affiner. On est tous autour de 750 personnes logées.
Et quand on multiplie par la France, ça fait beaucoup alors.
Il y a 60 antennes hein, de Habitat Humanisme.
Plus de 10 000 personnes.
Ah, oui, c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Ça fait beaucoup.
Le maillage des antennes de Habitat Humanisme sur la France, c'est très important.
58 associations, il y a maintenant.
Oui. Donc, 60 en tout, si je compte le Luxembourg et la Belgique.
Oui, Luxembourg et Belgique.
On a parlé du côté technique, Armel, de la fondation d'Habitat Humanisme. Mais bon, il y a sûr qu'il y a l'habitat, mais il y a un mot qui est encore plus fort dans le titre, c'est humanisme. Et le chemin de Bernard Devers, vous le dites, il est aussi porté. Est-ce qu'il y a... Quelles sont les valeurs? Est-ce qu'il y a déjà, au début, un engagement religieux ou pas du tout?
Alors, il ne le fait pas paraître du tout, mais il est prêtre, mais il ne le fait pas paraître. Il a été aussi... Il est président aussi de... Comment ça s'appelle? Habitat, logement sur le plan national.
Sur le plan national, cette année-ci, il a été nommé.
Il a été nommé il y a 3-4 ans. Donc, c'est une reconnaissance de son travail. Et on peut dire qu'il respecte la devise de la France, parce que la solidarité, la fraternité, la liberté sont vraiment des maîtres mots pour lui. Et il est vraiment, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Nous avons pu le constater parce que quand on lui demande de venir, il essaye de se libérer. Il a quand même 78 ans. Et l'année dernière, on a fait notre premier repas de mécène au Grand Puy. Et jusqu'à la dernière minute, on se disait, il va venir, pas venir. Il devait aller à Paris pour recevoir un prix. Et il a fait Lyon, Montpellier. Il a fait son discours. Il a grignoté à l'apéro. Et il est reparti. Moi, chapeau, vraiment chapeau. Et il a enthousiasmé, évidemment, l'auditoire, parce qu'il a un discours très convaincant, mais il est très attentionné. Et en même temps, il a cette conscience qu'il faut avancer. Et en ce moment, il a un grand projet, c'est qu'il souhaite libérer 15 000 appartements ou maisons ou logements, disons, qui sont en errance parce que les gens n'ont pas les moyens de les réparer, n'ont pas moyen de les remettre en état. Et il va monter une grande sollicitation sur le plan national pour que nous arrivions à loger donc beaucoup plus de personnes. Et je trouve ça assez fabuleux à son âge. Voilà,
donc quand on parle d'humanisme, Armelle, je rebondis sur ce que Grant a dit, de chercher des logements aussi qui permettent la sociabilité, c'est-à-dire de ne pas mettre les gens...
Il est très sensible à la mixité sociale.
Ça fait partie de ça.
Ça fait partie. Et de mettre les personnes près des commerces, près des écoles, qu'elles ne soient pas isolées, c'est aussi très important. Et la spécialité d'Habitat Humaniste, c'est non seulement nous logeons les personnes, mais nous les accompagnons. C'est pour ça que, par exemple, à Habitat Humanisme 34, nous avons 120 bénévoles. Et ces personnes accompagnent les personnes qui arrivent chez nous suite à un accident de la vie. Ça peut être une maladie, un divorce, un migrant, etc. Ils sont pris en charge, non seulement par un travailleur social, mais un accompagnant bénévole, pour leur indiquer, par exemple, un médecin, les accompagner dans leur démarche, pour qu'ils arrivent à se sociabiliser. Puisqu'en fait, quand ils sont chez nous, la plupart, au bout de 2 ans, réintègrent un logement social ou un logement privé. Mais pour ça, il faut qu'ils aient appris à avoir confiance en eux, à parler français, à savoir se comporter avec les autres. C'est tout ça qu'on donne. Ce plus est très important. Si bien qu'on a chez nous aussi ce qu'on appelle une commission d'action où il y a un bénévole qui s'occupe de faire des réunions pour qu'ils se rencontrent, les familles se rencontrent, faire des pique-niques, des voyages avec les membres des pensions de famille, les familles, etc.
Qui vous alerte sur les gens? Est-ce que c'est les gens qui viennent d'eux-mêmes? Est-ce que c'est justement des travailleurs sociaux qui vous alertent?
On a des gens qui viennent, mais malheureusement, on les renvoie toujours vers le même centre qui s'appelle le SIAO, ici sur Montpellier. Donc c'est un service de la ville,
du département.
C'est des assistantes sociales, en fait, qui étudient le cas de chaque demandeur et puis qui nous invitent. Nous, quand on a des logements de disponibles ou qui vont l'être, on est en contact permanent avec les SIAO pour leur dire, voilà, on a des logements disponibles. Et c'est eux qui nous font... Alors, on demande toujours trois familles, trois personnes pour faire un choix par rapport à l'environnement dans lequel on va les mettre, et aussi par rapport à au logement, etc., pour être sûr que ça réussisse, qu'on va réussir le coup avec eux. J'ajoute qu'on a... vous avez entendu parler des Ukrainiens. On a 40 familles entre Béziers et Montpellier, 40 familles d'Ukrainiens qui ont été accueillies depuis 2 ans.
À la demande du département.
Oui, ça c'est vraiment une demande particulière. Et donc là aussi, branle-bas de combat, trouver des logements...
Et nous avons depuis 2 ans une nouvelle structure dont tu vas parler, j'imagine, l'AIVS.
L'AIVS, oui, c'est une agence immobilière à vocation sociale. C'est une, c'est une extension, c'est notre bras droit aujourd'hui, parce que c'est la partie la plus, on va dire, qui se développe le plus actuellement. C'est celle qui fait l'appel aux propriétaires solidaires.
D'accord.
Voilà. Là, on est sur un système qui est un petit peu différent que celui qu'on avait l'habitude de faire. On est dans du pérenne, c'est-à-dire on fournit un logement pérenne comme n'importe quelle agence immobilière pourrait le faire. Sauf que les conditions sur lesquelles nous nous entendons, un, avec le propriétaire au départ, et deux, avec les locataires, sont plus sociales. Donc voilà, on est.
Et est-ce que, comme j'avais entendu parler de ça quand on a commencé, parce qu'en définitive, Habitat Humaniste, c'est aussi un mouvement, parce qu'il y a 40 ans, c'est les premiers moments où on a commencé à voir le professeur Jacquard, je crois, dans la rue, c'était Jacquard, qui a commencé avec le droit opposable au logement, etc. C'est à ce moment-là que c'est venu, que j'ai commencé à en entendre parler. Est-ce que, par exemple, les locataires, les propriétaires qui acceptent de donner un peu moins, ont aussi une garantie de loyer, parce que ça a été, il y a eu des choses comme
Bien sûr. Non seulement ils ont une garantie de loyer, mais
et
ils
de
ont
bon
aussi
remise en bon état.
Oui, on surveille, parce que ça fait partie du rôle des accompagnants chez nous. Et nous avons aussi ce qu'on appelle des travailleurs sociaux chez nous qui font les entrées et les sorties. Et nous avons à côté de ça aussi des gestionnaires de location qui alertent quand il y a un défaut ou un accident dans un appartement pour qu'on puisse intervenir rapidement pour le remettre en état quand il faut, etc. Le rendre. Vraiment, on est sur du. Déjà, on est sur du long terme, mais aussi des relations long terme avec les propriétaires, mais des relations long terme également avec le locataire. Et on veut que tout se passe vraiment dans une bonne ambiance et dans une bonne sécurité.
Je pense que
J'ajoute à ça que, comme on est sur un système qui est, on va dire, accompagné par un locavantage, le propriétaire a aussi droit à une petite aide financière sur une diminution d'impôts. Sur la différence en fait qu'il obtiendrait s'il s'occupait lui-même de son logement. L'avantage de passer par la IVS, c'est qu'il n'y a pas de vacances logement. C'est-à-dire que quand on entend que quelqu'un part, on a tout de suite quelqu'un derrière qui va prendre la relève en toute sécurité. Donc pour le propriétaire, c'est un repos total.
On imagine qu'en 30 ans, l'acquisition de 400 logements, etc., ça a été, il n'y a pas d'étape, ça grossit d'année en année, mais est-ce que, dès le début, on parlait des allègements d'impôts, est-ce que la mairie, le département, enfin, les corps d'État, je ne sais pas comment on appelle ça, vous ont tout de suite suivi, ou est-ce que ça a été aussi un travail vous voyez ce que je veux dire, sans dire de lobbyisme, mais bon voilà, il faut y aller, les partenaires.
Je reprends le tout début, il y a 30 ans, on était que sur des donations. Voilà, on ne travaillait que sur des donations. Les gens qui nous suivaient faisaient des donations, un peu comme vous pourriez le faire pour n'importe quelle autre association qui vient en aide aux personnes, aux enfants, par exemple, pour aider les enfants à être scolarisés. Ben là, c'était la même chose. On avait des dons qui nous permettaient de. On avait aussi, quand je dis des donations, c'est-à-dire des logements qui nous étaient cédés à la mort du propriétaire, par exemple, et qui servaient à ce moment-là aussi de logement. C'était un peu. On n'en avait pas autant, bien sûr, mais ça permettait de loger le plus urgent, quoi. Et puis, petit à petit, il y a des choses qui se sont créées tout autour. Et l'État, par le biais de la dette, c'est la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, nous aide par des subventions à l'année pour différentes. Le plus important pour nous, c'est par exemple ce qu'on appelle les pensions de famille. Elles sont prises en charge par la dette, qui nous permet de loger. Aujourd'hui, on a 50 personnes sur Montpellier, sur deux pensions de famille, et Béziers qui en a 17 aujourd'hui, et qui va en avoir 10 de plus l'année prochaine, parce qu'on fait une extension. Voilà, tout ça sont des choses qui sont vraiment prises en charge. À côté de ça, on a aussi des aides pour développer, pour la captation, etc. Ce sont des aides ponctuelles plutôt, mais voilà, qui ont pour objet de nous aider à augmenter le parc de logements.
Armel, c'est qui le public? Et là, c'est Ilan et Mathilde peuvent intervenir, parce que vous, par exemple, est-ce que vous pourriez rentrer dans cette démarche? En tant que jeune, vous êtes encore chez vos parents tous les deux?
Non, moi je suis étudiant, je vais en recherche d'appartement là, je suis sur Toulouse de base. mais ouais, c'est quand même une grande préoccupation aussi pour les jeunes, parce que déjà je trouve qu'il y a moins de logements, vu qu'il y a un petit peu un phénomène que, avec les Airbnb, tout ça, il y a plus de logements pour de courtes durées, vu vu que c'est plus rentable pour eux, même si ça demande plus d'investissement. Pardon. Et du coup, ouais, ça fait plus de demandes que d'offres. Et pour pas moi reprendre pour la reprise scolaire en septembre, c'est assez compliqué. Du coup, on se met des alertes sur les sites, quoi.
Bien sûr.
Mais ouais, c'est quand même assez compliqué comme sujet pour nous, quoi, je trouve.
Alors, chez nous, on a quelques étudiants. On a déjà une pension de famille, la nouvelle pension de famille Frères Grimm, où d'un côté, il y a des personnes HH, etc. Et de l'autre côté, c'est des étudiants, donc 25-25, grosso modo. À peu près.
La concurrence de Airbnb, ça vous préoccupe
Oui, bien sûr. En fait, on ne le connaît même pas parce qu'on ne peut pas capter ce genre de logement. Et parfois, ce sont des logements qui sont attenants à d'autres logements ou même carrément des propriétaires qui sortent de leur maison le temps du Airbnb. Et donc, ça, ce sont des choses qui nous échappent. Quoi. Je veux dire, on ne compte pas dessus non plus. Quoi.
Mathilde, quand on a fait un reportage, et c'est Léonie qui a mené le projet, sur la précarité des jeunes artistes, la précarité des jeunes, elle est dans tous les domaines. Hein, jeunes artistes, jeunes étudiants, jeunes... Voilà. Tu te sens concernée? Tu as quelque chose à dire là-dessus, justement, ou sur la difficulté d'aide au logement, par exemple?
Moi, personnellement, j'ai la chance d'être avec mes parents, j'ai la chance d'avoir des parents qui
sont là.
Voilà, qui sont là et qui peuvent m'épauler. Après, étant à l'université, la précarité étudiante, forcément, c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours, que ce soit dans les coupes budgétaires, que ce soit dans l'habitation, que ce soit dans l'aide à l'éducation. Mais juste, je voulais rebondir sur le projet des 15 000 logements délabrés. Oui. Je trouve que c'est évidemment une très très bonne initiative, et en plus, ça peut amener à... Comment dire ? Associer d'autres associations, que ce soit justement des artisans, des artistes locaux, ça peut être un beau projet. D'où aussi humanisme côté social, ramener plus de monde.
Ouais. Justement, là, j'interviens, je te disais, parce qu'on vient de vivre une expérience extraordinaire avec les bâtisseurs j'ai oublié le nom, excusez-moi. Donc, c'est une association, en fait, hein, qui vient et qui remet en état... C'est les bâtisseurs du devoir, voilà. Et ils nous ont aidés sur un logement, un petit immeuble sur Béziers. Et on a tissé des liens avec eux. On va refaire des opérations, sachant que pour nous, c'est tout bénéfice, évidemment, puisqu'on ne paye rien. Et puis, on les accompagne quand même. Hein, on a besoin de créer autour d'eux aussi un tissu de bénévoles qui les accompagne, parce qu'ils organisent. Ils s'occupent de toute l'intendance matérielle, quoi, je veux dire. Mais la main-d'œuvre est toujours bénévole. Alors, c'est plus facile.
Dans le même esprit, on organise une fois par an, pendant une semaine, ce qu'on appelle la semaine solidaire. Et dans ce cadre-là, nous avons parfois des salariés d'entreprise qui consacrent une heure à Habitat Humanisme. Alors, soit ils peignent, soit ils nettoient, soit... ils font du vélo pour faire entrer de l'argent, soit... je ne crois pas me tromper en disant ça.
Non. Disons que ces opérations sont très ponctuelles, on va dire.
Voilà. Et puis ça doit être quand même assez lourd à organiser, non ?
Et puis encore une fois, on est plein de bonnes idées, mais derrière, il faut aussi personnes bénévoles et qui sont...
Et de l'énergie.
Je
crois que cette année, on va faire un atelier cuisine avec un chef et dans une pension de famille. Et
C'est vrai que cette énergie-là... Grant, on est partenaire ici, notamment de la corderie, de la FEP, de gamme, évidemment.
Ouais.
C'est aujourd'hui cette énergie des bénévoles qui...
C'est number one, comme on dit. C'est vraiment sans ça.
Et c'est vrai que de reculer l'âge de la retraite, il y a aussi, je vois les plus... C'est quand on passe du temps actif à la retraite que c'est là où on se projette beaucoup dans le bénévolat.
Il n'y a pas d'âge pour le bénévolat.
Non, bien sûr.
Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que vous soyez retraité pour le devenir. Je fais un appel d'ailleurs. J'en profite pour appeler les bonnes volontés. Le bénévolat, ça peut être
ça peut être à 19 ans,
ça peut être en tant qu'étudiant, vous pourrez entrer dans un système de bénévolat. je vais pas dire le scoutisme, mais enfin ça en faisait partie aussi. C'était ça, l'accompagner l'autre, c'est toujours quelque chose de
très enrichissant. En plus.
Tout à fait.
Très enrichissant. On va marquer une pause musicale. Vous avez choisi Grande Collignon pour nous, Rhoda Scott.
Oui, je vous explique pourquoi. Rhoda Scott, c'est une organiste qui a 83 ans, qui est extraordinaire, que j'ai vue la première fois de ma vie dans un casino. Je ne jouais pas à Deauville.
Non, vous pouvez.
En 76. Elle m'avait fasciné parce que c'était quelqu'un c'est très jazz, hein, je le dis tout de suite. C'est une organiste qui a l'habitude de jouer pieds nus. Et donc ça fait tout à fait la différence.
On écoute.
On écoute. Thank you.
Et bonjour chers auditeuristes, rebonjour, on est le mardi 11 juin, c'est déjà l'été, mercredi 11 juin, décidément j'ai du mal avec les dates aujourd'hui. Je suis en compagnie d'Ilan et de, je vais y arriver, Mathilde, faut que je pense à Jacques Brel à chaque fois, hein. Elle va finir par mal le prendre, elle est gentille mais elle va finir par mal le prendre. On est accompagné aussi par William qui est derrière la vitre, salut William, dont c'est l'anniversaire, donc couvrez-nous de messages sur Facebook, sur notre site radiofmplus.org pour souhaiter un bon anniversaire à William. Et nous sommes avec Grande Collignon et Armel Feureau pour...
Florio,
je vais y arriver. Pour Habitat et Humanisme. Merci en tout cas à tous les deux d'être là. Il y a de l'actualité, on a 5 minutes, Grande, si vous voulez parler de ce qui va arriver jusqu'à l'hiver.
Je vais laisser Armel parce que je ne m'occupe pas de l'organisation.
Vous ne faites pas tout alors.
Je ne fais pas tout. Et cette fois-ci, sincèrement, je ne donne même pas d'ordre. Donc
Je vérifie quand même. Oui. Compte tenu que nous fêtons nos 30 ans cette année, Habitat Humanisme 34, et la Fédération ses 40 ans, la Fédération a organisé une exposition de photos où nous présentons une vingtaine de portraits de visages humains et de la diversité de notre clientèle, c'est pas le terme, de nos
résidents.
Voilà, de nos résidents. Donc, du 16 au 20 juin, cette exposition sera à la mairie de Montpellier, avec évidemment un vernissage avec le maire, etc. Nous la renouvelons du 8 au 12 septembre à la Maison des Relations Internationales à Montpellier,
dont nous sommes partenaires, et qui a une émission tous les lundis à la radio.
Donc vous en ferez part au moment
voulu.
Et ensuite, nous faisons bien évidemment l'Antigone des associations à Montpellier le 14 septembre.
Moi, j'ai mis le 7 partout, moi.
Ah non, c'est pas le 7, c'est le 14. Ah, c'est toujours le deuxième dimanche.
Bah voyez. Merci, Armel.
Deuxième dimanche de septembre. Je peux vous dire que le 6, le samedi 6, c'est à Saint-Clément-de-Rivière.
D'accord.
Et là, nous récupérons des bénévoles, parce que grosso modo, on a une centaine de personnes qui passent au stand, et nous arrivons à pouvoir avoir des bénévoles, nous sommes friands de bénévoles.
Alors pour nos auditeurices, le stand Habitat Humanisme, c'est dans la grande allée principale d'Antigone des Assos, généralement sur la droite.
Voilà, exactement.
Il y a un gros chapiteau.
Les derniers, c'était sur la gauche.
Ah mince.
Et pour le 20 octobre, comme chaque année, nous faisons un concert solidaire pour évidemment ramener des fonds pour l'association. Et cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir D-Job, accompagné de Rhoda Scott et de 144 choristes à l'Opéra Comédie à Montpellier à 20h. Et vous êtes chaleureusement invités à venir. Et les inscriptions
sont déjà ouvertes.
Démarrent là maintenant. Et auprès de l'Opéra ou auprès d'un contact, le 06 07 08 43 07. À 35
on rappellera,
euros,
on vous invitera de toute façon pour venir en parler. Voilà. Puisque nous rentrons dans un partenariat avec Habitat Humanisme. Donc ça va être plein de beaux moments où vous allez venir vous exprimer régulièrement, donner toutes les infos et puis alerter quand il faut alerter parce que c'est aussi la mission des assos.
Et là-dessus... il y a quelque chose qui est un peu plus privé. Nous organisons également un cocktail dînatoire ou un dîner de mécènes au domaine de Courant.
Masse de Courant, 18 septembre.
On rappellera toutes les actualités. On fait un appel à bénévoles. Vous en avez besoin, Grande.
Et à dons,
bien sûr. Bénévoles, pas simplement pour accompagner les familles. On en a besoin tous les jours. On en a...
Pour l'accueil.
Il en faut pour l'accueil. Il en faut aussi...
Pour les ressources humaines.
Oui, ressources humaines.
Pour l'immobilier.
Tout tout ce qui est gouvernance, en fait. Tout ce qui est gouvernance, donc tous les postes de la gouvernance, comme trésorier, l'informatique, on cherche régulièrement. J'ai rendez-vous après vous, ici, avec une informaticienne qui nous rejoint.
Mais super. Voilà. Ici, je vous présenterai quelqu'un, mais pas tout de suite. le dernier mot pour se quitter, comment se renseigner sur Habitat Humanis? C'est simple, vous tapez Habitat Humanis et vous allez tout savoir.
Et j'ai oublié de vous dire que nous avons en ce moment une vente de vin au profit d'Habitat Humanisme du domaine la maison Le Breton de Combaillot, qui est un excellent vin, c'est du raisonné, et nous avons du chardonnay blanc. Vous tapez Habitat Humanisme Vigneron Solidaire sur Internet et moi je vous livre. Vous payez et moi je vous livre.
Avec modération, me rappelle William gentiment. Ben, merci en tout cas à tous les deux d'être venus.
Merci à
très
vous.
Bientôt.
Non,
et merci pour ce partenariat qui va donner de beaux moments. Merci à Mathilde et merci à Ilan.
Merci beaucoup.
Au revoir.